chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne interactive. À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans cette discussion. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto se dit victorieux à la présidentielle avant la proclamation des résultats. En août dernier, Soumaïla Cissé au Mali n'a pas reconnu sa défaite, tandis qu'en 2016, Jean Ping au Gabon avait contesté les résultats et se considère depuis comme président élu. Que dire sur ces crises post-électorales fréquentes en Afrique et selon vous, comment les éviter? Ce sont les questions qui vous ont été posées sur le Facebook de VOA Afrique. Je vous rappelle que pour y participer, vous pouvez appeler en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. Alors l'un des candidats à la présidentielle de dimanche au Cameroun, Maurice Kamto, a revendiqué en effet la victoire. J'ai reçu du peuple un mandat clair que j'entends défendre jusqu'au bout, a-t-il déclaré devant la presse à Yaoundé lundi, sans préciser sur quoi se basent ces affirmations. Et par cette proclamation avant les résultats officiels, M. Kamto est manifestement hors la loi, a rétorqué le porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakari. J'invite le président de la République à organiser les conditions d'une transition pacifique, avait déclaré donc Maurice Kamto, ajoutant « Je lui assure à lui-même et à sa famille toutes les garanties de sécurité, d'immunité, de respect dues à son statut ». Et Paul Atanganji, ministre de l'Intérieur, avait déclaré vendredi, donc avant, que toute forme de remise en cause du verdict des urnes en dehors des voies légales ne serait pas tolérée. Et il faut savoir que le Conseil constitutionnel au Cameroun est le seul habilité à proclamer des résultats au plus tard 2 semaines après le scrutin. Voilà, c'était un petit rafraîchissement sur donc la situation électorale au Cameroun. Je ne sais pas si nous avons déjà un auditeur pour commencer. On a Youssouf Ouédraogo en ligne. Bonsoir. Youssouf Barry en ligne. En Côte d'Ivoire.
Bonsoir madame et bonsoir à tous.
Bonsoir. À vous la parole.
Voilà. Par rapport à cette question, moi je pense que là il faut on peut constater, on peut même affirmer sans risque de se tromper que là il s'agit de la faiblesse des institutions. Chose comme je l'ai dit d'ailleurs, chose qui est due aussi à la faiblesse des hommes qui les composent. Puisque là, il y a aussi une crise de confiance entre les différents acteurs des processus électoraux, c'est en Afrique. C'est pourquoi, après chaque élection, on assiste à des contestations ou à des désaccords électoraux de ce genre. C'est pourquoi moi, depuis hier, je l'ai dit et je continuerai à le dire. Il faudrait, pour dépasser ces différents conflits, il faudrait organiser une seule élection pour les deux mandats et que les différentes personnalités qui seront...
Quand vous parlez, Youssouf, d'une seule élection pour les deux mandats, vous voulez dire mandat couplé présidentiel, des élections générales, législatives?
Voilà, et là, celui qui est élu devrait comprendre automatiquement, il ne peut pas du tout aller au-delà de ça. Parce que tant que ça ne change pas, moi je pense même qu'il ne servira à rien d'organiser des élections parce que ce sera tout simplement une façon de voler de l'argent et de distribuer comme on veut, pendant que les populations sont là en train de tirer les câbles par la queue. Donc, il faut qu'on dépasse ce stade-là. Il ne faut pas toujours se mettre à organiser des élections pour la forme. Maintenant, en ce qui concerne les hommes qui constituent ou qui composent ces différentes institutions, ils doivent se rendre compte que leur responsabilité est vraiment mise en cause par eux-mêmes. Pas par une autre personne, mais c'est par eux-mêmes. C'est de l'irresponsabilité. Prenez un exemple. Lorsqu'une élection est organisée, toi, au lieu d'accepter les résultats, ou bien au lieu de se battre afin que le processus soit fiable, ils se mettent à partager de l'argent, à corrompre les différents acteurs, à faire du n'importe quoi pour se proclamer vainqueur. Et bien, oui, la crise de confiance dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi on ne va jamais, tant que les différents acteurs ne prendront pas conscience, qui sont irresponsables, peut-être c'est un peu plus fort, mais je vais l'utiliser. Ils sont irresponsables et cela ne va pas changer.
Merci beaucoup,
donc,
Youssouf.
Moi, j'en appelle à la prise de conscience de ces différents acteurs pour dépasser cela.
La prise de conscience de la part de Youssouf qui pense qu'on ne fait pas des élections pour la forme. Hein. Ce sont les termes que Youssouf donc a utilisés qui parlent de crise de confiance. Ce n'est pas le seul lecteur et auditeur à avoir utilisé ce terme, hein, le problème de la crise de confiance. On a notamment le commentaire de Jean Thibaisois qui a écrit sur notre Facebook: est-ce qu'un opposant peut se sentir victorieux avant la proclamation des résultats par la commission en charge? L'Afrique est très développée en matière d'élections car on gagne avant même d'aller voter. C'est la réflexion de Jean, une petite réflexion ironique. Gilberto, quant à lui, a écrit: les pays où la démocratie et les règles du jeu des élections ne sont pas respectées, c'est parce que le peuple n'a pas de bien commun, c'est-à-dire patriotique, dit-il. Si les Africains deviennent patriotes et ont pour bien commun leur pays, tout se passera pour le mieux, comme au Ghana, dit-il, car comme l'ancien président Rawlings l'avait dit, créant un système tellement parfait et irréprochable pour nous et nos enfants que même le diable, s'il prend la tête, ne pourra s'y plier. C'est la réflexion de Gilberto. On a un autre auditeur en ligne. Mamadou Traoré en ligne à partir du Mali. Bonsoir, à vous la parole.
Bonsoir à tous les héritiers de Vœux Afrique. Bonsoir, madame.
On vous écoute, Mamadou.
Bien, donc, je partage le point de vue de mon prédécesseur. Bien, c'est tout à fait vraiment étonnant de voir que des opposants se réclament vainqueurs d'une élection sans que les résultats ne tombent. Mais ce qu'il faut comprendre, je ne les accuse pas trop. Puisque on sait que dans les 90% des élections qui se passent en Afrique, ce sont des élections fraudulées, ce sont des élections truquées. Donc, raison pour laquelle eux aussi, ils anticipent, ils crient à la scandale, au tripatouage des résultats. Donc, c'est ce qui font que ces gens-là, avant même la proclamation des résultats, ils font des déclarations en disant qu'ils sont sortis vainqueurs ou bien, voilà. Donc, je pense que une élection présidentielle, c'est d'abord un grand enjeu pour un État, pour une nation, donc qui est supervisée. Cette élection est supervisée par plusieurs observateurs internationaux et externes et venant de d'autres nations aussi. Donc, c'est pour dire qu'une élection présidentielle n'est pas du tout anonymisée. Donc, s'il doit y avoir des contestations, mais que ces contestations se passent dans l'art. Donc, les opposants, ou bien, bon, que ce soit les opposants ou bien les majorités, en tout cas, que tout le monde fasse les choses dans les règles, que personne ne se mette devant pour dire que voilà, c'est nous qui avons gagné puisqu'il y a eu des fraudes, il y a eu ceci, il y a eu cela. Moi, je disais ça hier, il n'y a jamais une élection présidentielle dans n'importe quel pays qui est vraiment apprécié à 100%. Il y a toujours ce qu'on appelle des inconvénients, des petites erreurs, mais ces erreurs ne doivent pas être vraiment fatales ou bien ces erreurs ne doivent pas être des causes pour que les résultats soient tripés ou bien vraiment falsifiés.
Merci beaucoup, Mamadou qui parle aussi de crise de confiance et qui dit que cela donc peut être éradiqué si l'on établit des élections transparentes et crédibles. On a également sur notre Facebook la réaction de Mavé Chisambika qui est à Kananga en République démocratique du Congo, et lui il dit: généralement ceux qui les organisent, donc les élections, notamment ceux qui sont au pouvoir, dit-il, ne peuvent en aucun cas les organiser pour les perdre ensuite. Ils cherchent à tout point de vue de stratagème pour préjudicier les autres participants, dit-il. Cela étant, beaucoup d'opposants qui osent participer préfèrent s'autoproclamer vainqueurs lorsqu'ils trouvent que les instances chargées d'organiser ces élections semblent ne pas donner l'image de transparence. Donc ça, c'est la réflexion d'un Congolais. Et on a justement un autre Congolais de la RDC en ligne, c'est Ben qui est à Kinshasa. Bonsoir Ben, à vous la parole.
Bonsoir au VO Afrique et bonsoir aux auditeurs du monde.
Merci beaucoup.
Ce qui se passe, pour se remettre en Afrique, c'est beaucoup plus déplorable. vous venez d'avancer un point de vue sur les élections qui viennent de se passer au Cameroun. Un candidat qui s'est dit déjà réjoui à tout, pris avant qu'on arrive à proclamer les élections. Vous comprenez cela? Qu'est-ce qui arrive à pousser ce genre-là à dire cela? C'est par rapport à de pairs, c'est-à-dire ils n'ont pas d'abord un confiance à des institutions électoraux et même des institutions de cour et des tribunaux qui sont juste légués à prendre cette décision à la place de la population. C'est-à-dire, ces institutions, leur tête, vraiment, c'est pourri. Ils n'arrivent pas à servir la population ou à aider le peuple, le souverain préfet, mais ils arrivent à se servir d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont besoin de l'argent. Pourquoi? Parce que ceux qui se trouvent au pouvoir ont de moyens, des possibilités à leur donner de tout moyen, même de vilains ailleurs, afin qu'ils arrivent toujours à passer. C'est ce qui n'arrive même pas à déranger sur les élections. Vous avez vous-même, vous étiez au courant, vous étiez ici avec des observateurs, vous avez vu ce qui s'était passé en 2011. Avec les élections tenues sur NRDC, c'était toujours comme cela. Vous avez vu, et au finish, il y a un candidat qui arrive à passer, il devient président, il accepte même que non, tel avait déjà passé, mais voilà ce qui s'était passé. C'est parce qu'il il était juste opportuniste, et il a eu la chance d'être choisi par les Occidentaux, comme ils arrivent à décider toujours sur nos pays africains. Et comprenez un peu cela. C'est ce qui arrive à s'alarmer. Donc nous devons faire l'effort de demander à ce dirigeant, à des têtes là, des institutions électoraux, d'avoir la bonne volonté de servir le petit peuple, qui est des pauvres peuples ici, qui est de commencer à se servir d'eux-mêmes et avoir beaucoup besoin d'argent. Comme aujourd'hui, avec la CENI chez nous, vous l'avez vu, nous sommes en train de crier tout haut. Toute la population n'a pas vraiment besoin de la machine à voter. Mais vous trouverez que celui qui a la tête seulement de la CENI se décide de dire non, c'est moi qui a un mot à dire, un point d'intérêt. Il se décide, il va acheter ses machines à voter et il nous amène ici en train de nous imposer. Ce qui est vraiment pitoyable, madame.
Merci beaucoup, Ben, pour ce petit rappel sur la machine à voter en République démocratique du Congo qui fait couler beaucoup d'encre. On peut revenir sur le cas du Mali par rapport à notre sujet. Hein. L'on se rappelle que le 20 août dernier au Mali, donc la Cour constitutionnelle a proclamé Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur de la présidentielle avec 67% environ des suffrages au second tour du 12 août contre 32% environ pour l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé. Et donc le principal chef de l'opposition, donc Soumaïla Cissé, n'a pas reconnu sa défaite. Monsieur Cissé avait dénoncé des fraudes, selon lui, à la présidentielle. Il avait appelé les Maliens à une mobilisation pacifique et non violente pour défendre leurs droits démocratiques, selon ses termes. Et le candidat Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été élu par le peuple malien. La cérémonie d'investiture d'un président non élu prévue pour mardi 4 septembre est nulle et de nul effet, avait-il affirmé, donc au nom de la coalition pour restaurer l'espoir. Et à cette époque, on se souvient que ses partisans organisaient des marches, notamment tous les week-ends, hein, depuis l'annonce des résultats définitifs. Nous avons sans doute un autre auditeur en ligne. Tidiane, bonsoir. Allô, allô. Il est parti. Il est parti en Alphonse, en RDC, en République démocratique du Congo. Alphonse, bonsoir. On vous écoute.
Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous savez, je trouve que anticiper la publication des résultats, c'est une violation de la procédure. Hein. Vous savez, il faut attendre toujours les institutions habilitées à le faire, à proclamer les résultats officiellement. Donc ça ne change rien même si on s'était proclamé vainqueur parce que on a vu les cas, comme on voudrait les citer, les institutions changées de gagner les élections dans les résultats qu'elles détiennent. Donc tout cela, c'est la conséquence du manque de confiance, comme disait un de mes prédécesseurs. Et puis c'est encore c'est parce que les régimes qui sont en place ne veulent pas laisser la place aux autres, ne veulent pas l'alternance, ce qui fait qu'ils arrivent à ce niveau, ils arrivent à ce niveau. Allô?
Oui, on vous écoute. Oui, continuez, on vous écoute.
C'est parce que les institutions qui sont au pouvoir depuis longtemps ne veulent pas respecter les règles du jeu. Sachez qu'il y a beaucoup de compétences dans le pays. Ils sont impatients d'accéder au pouvoir que ce régime gère depuis des années sans donner une meilleure vie, de meilleures conditions de vie à leur population. C'est ce qui pousse cette réaction, cette anticipation, cette autoprogrammation des candidats de l'opposition, madame la journaliste.
Merci beaucoup. Un grand merci, Alphonse. Un grand merci pour votre réflexion. Tidiane, qu'on a eu tout à l'heure, mais qu'on a perdu en ligne, il avait dit sur notre Facebook, je trouve ça très intéressant, très amusant, il a dit, on se souvient que Maurice Kamto avait dit avoir tiré et marqué un penalty, et Tidiane se pose la question de savoir qui a sifflé et qui risque de donner le carton rouge. Je crois que nous l'avons justement en ligne. Tidiane, bonsoir, à vous la parole.
Oui, bonsoir Madame Morgane, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA, c'est la connexion
oui.
De la qui était un peu affirmatiste.
Tidiane, bonsoir. Merci beaucoup Tidiane, c'est Nathalie qui vous écoute, à vous la parole.
Ah oui, comme j'avais dit dans mon message, vous savez, Kamto, depuis hier, s'est déclaré vainqueur de la présidentielle. Donc, en tout cas, actuellement, tout le monde se pose la question ici. Si quand même se dit qu'il a tiré vraiment le pénalty et qu'il a marqué, on se demande vraiment qui a sifflé, parce qu'il y a quand même un arbitre. Donc l'arbitre, tout le monde pensait que c'est la Cour constitutionnelle. Et depuis les élections, donc la Cour constitutionnelle n'est pas encore vraiment donné un terme. Donc en tout cas, je pense qu'il est en train aujourd'hui de se décrédibiliser. Il est parti en besogne. Et c'est là, pour une fois de plus, il est en train vraiment de donner la force au président sortant, M. Biya, hein, parce que même s'il n'avait pas la volonté de voler, et maintenant ils vont voler tranquillement. Parce que tout le monde est là, tout le monde reste serein, parce que vous savez, tout le monde craint qu'il y aurait quand même la crise post-électorale. Mais depuis ce matin, tout le monde est là, tout le monde en tout cas est en train de commenter, c'est là, de se moquer en tout cas de Maurice Kamto, qui se déclare déjà vainqueur avant même le résultat. Donc avec les commentaires que j'ai suivis d'ici et là, même si j'avais en tout cas la crainte d'une crise post-électorale, en tout cas, pour l'instant, je vous rassure, je suis sûr et certain, si ça continue comme ça, il n'y aurait pas de crise post-électorale. Moi, je pense que les opposants en Afrique doivent quand même changer de stratégie. Parce que ce dimanche, moi, j'ai vu ici des jeunes pleurer parce qu'ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté parce qu'ils n'avaient pas de carte électeurs. Vous savez, les élections se préparent. Par exemple, actuellement, ce qui est en train de passer au Togo, l'opposition est en train de boycotter le recensement. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Parce qu'il faut quand même encourager les gens à aller se recenser. Ce dimanche, il y avait quand même des millions de personnes qui étaient ici, en tout cas au Cameroun, qui voulaient voter, mais ils n'ont pas voté parce qu'ils n'avaient pas quand même les cartes électeurs. Donc, moi, je pense que la victoire commence d'abord par le recensement, puis le vote. Et si les gens n'ont pas vraiment sensibilisé les gens pour quand même pour que les gens puissent quand même se recenser. En tout cas, il y aura toujours des prix à la loue, comme on le voit actuellement. Et je pense que, en tout cas, tout le monde condamne cela, parce que c'est comme si j'ai l'impression qu'ils voulaient quand même appeler les gens à la rue. Hein. Mais tout le monde se dit que voilà, leurs femmes et leurs enfants sont toujours sont à l'Occident. Donc ceux qui sortiront ici seront soit tués, soit blessés.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tidiane. Un grand merci pour votre réflexion. Je voudrais dire à Steve Bocco qui a dit « Je constate que vous ne m'appelez plus sur notre Facebook. » Ce n'est pas vrai, Steve. On appelle tout le monde. On essaie de vous appeler. Steve, il est en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, Steve, c'est pas qu'on veut pas vous appeler. Parfois, c'est que les lignes fonctionnent pas très bien et on essaie justement de vous joindre. Je voudrais apporter l'éclairage de Nick qui a écrit sur notre Facebook hein, par rapport au cas du Cameroun, hein, des élections au Cameroun, et donc la réaction du candidat de l'opposition Maurice Kamto. Donc Nick a écrit « La loi 113 du Code électoral camerounais stipule que les résultats de chaque bureau de vote doivent être rendus publics après le dépouillement. Le Code 137, dit-il, lui, il dit qu'aucun recours n'est redevable une fois que les résultats officiels sont rendus par la Cour constitutionnelle. Et il ajoute, Kamto étant un homme de droit et prudent, s'est vu obligé d'anticiper. Une réflexion intéressante de la part donc de Nick, qui doit probablement être camerounais, j'imagine. On a un autre auditeur en ligne. On a Mamadou Alimou. Bonsoir Mamadou. Mamadou qui est en Guinée, à vous la parole.
Ok, bonsoir madame, vous allez bien?
Ça va très bien, et vous-même?
Oui, ça va, merci. Ok, vous savez, les élections en Afrique sont toujours entassées de fraudes massives. C'est pour ça que l'opposition n'a jamais eu le courage de reconnaître les élections. Parce qu'avant même que... C'est que même le processus électoral n'est pas respecté. Le recensement, même lors des documents. Moi, j'ai eu la chance d'observer les élections depuis 2013, j'observe les élections. Mais vraiment, ce que nous constatons en Afrique, c'est que les dirigeants qui sont au pouvoir, ils ont toujours peur de quitter le pouvoir par la voie des urnes, parce qu'ils savent qu'ils ne vivent que des deniers publics. Et tout ça, ils ont peur. Vous avez vu ce que le sort de Yahya Jammeh. Les blesses qu'on porte. Ils ne voudront jamais quitter le pouvoir. C'est ça leur problème. Vous voyez, c'est ça. Les élections sont toujours entassées de fraude. C'est ce qui cause que les dirigeants africains ne viennent jamais quitter le pouvoir sans passer par le vol ou bien quelque chose comme ça.
Un grand merci Mamadou pour votre participation. Avant de prendre un autre auditeur, comme j'ai cité en début d'émission, notamment le cas du Gabon, hein, notamment la présidentielle du 27 août 2016 hein, au Gabon. On se souvient que les résultats avaient été proclamés donc le 31 et la commission électorale avait annoncé que Ali Bongo avait remporté le scrutin. L'opposition avait aussitôt dénoncé les résultats. On se souvient de cette fameuse anecdote hein, de la province, en particulier du Haut-Ogoué, où presque tous les inscrits, soit 99,9%, auraient voté contre 59% au plan national et où Ali Bongo aurait reçu 95% des voix. Et l'opposition alors avait publié notamment des copies des procès-verbaux et le 24 septembre 2016, Ali Bongo était proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle avec plus de 50% des voix contre Jinping, 47 et quelques pourcents. Et depuis, comme on le sait, Jinping donc se considère président élu du Gabon. On prend l'autre auditeur que nous avons en ligne. Hassan Omar, à Djibouti, à vous la parole.
Merci, merci à tous les auditeurs de la VOA. Moi, je crois que c'est très important. Donc, c'est souvent cette revendication de l'opposition. Parfois, elle est juste et donc adéquate à manifester. Parfois, c'est une farce. Donc, il faut trouver une solution sur ce point-là. Et il faut mettre en place une commission et des élections crédibles. Donc, c'est la Commission africaine, c'est l'Union africaine, devait mettre en place une commission qui permet de mettre en place et d'aboutir sur la démocratie. Mais ça n'existait pas. Et c'est souvent ce qui perd, ce sont les citoyens ordinaires, donc les gens civils qui vont perdre leur vie, alors que les autres vont toujours trouver d'autres solutions, aller à l'étranger ou avoir plus de sécurité. Donc, essayer de trouver une solution, c'est la démocratie qui est en jeu. Voilà ce que je pense.
Merci beaucoup, Hassan. Avant de prendre un dernier auditeur, je vais citer Souleymane. Souleymane qui écrit sur notre Facebook « Tant que l'Afrique ne connaîtra pas des institutions assez fortes, les crises sociopolitiques ne cesseront jamais. Avec des institutions fortes et indépendantes, on garantit l'égalité de chance à tous les compétiteurs dans une élection, dit-il. Il met entre parenthèses une administration électorale efficace et impartiale, un instrument juridique impartial pour faire face aux contentieux issus des élections. Les crises post-électorales peuvent être évitées à ce prix. C'est le commentaire de Souleymane qui en fait sera notre dernier lecteur, dernier auditeur. Donc très grand merci à tout le monde, à la production, Joselle Morissin, Firmin, Max Koyema, tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, bien entendu. À très bientôt. Au revoir.